L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la
moutarde. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Comme vous le savez peut-être, février est le mois de la nouvelle à la librairie L'Épluche Libre. Aussi, chaque année, nous organisons un concours ouvert à tous sur une thématique choisie par vos libraires. Nip, Fripp et Atour étaient le sujet de la dernière édition et Martine Boyer-Weinmann, notre marraine, la bonne fée de la littérature. Alors, chers éplucheurs de livres, ouvrez bien vos oreilles, car nous allons dévoiler le nom du grand gagnant de ce concours. Monsieur Olivier Liarruzzo, bonjour.
Bonjour.
Enchanté, merci d'être avec nous par téléphone.
Je vous en prie.
Donc, vous êtes le grand gagnant de ce concours de nouvelles.
Oui.
Oui. Et vous êtes donc l'auteur de la nouvelle lauréate. Qui êtes-vous? Qui se cache derrière le texte Black Friday? Est-ce que vous pourriez vous présenter?
Oui, bah écoutez, je suis d'abord, je précise, je suis à la retraite depuis quelques années. Et ce qui m'a donné beaucoup de temps... Comme j'aime beaucoup lire, j'aime aussi écrire, et je me suis attaqué au genre de la nouvelle. Voilà, c'est une formule qui me plaît beaucoup, et je m'y essaye, voilà, et en répondant de temps en temps à des concours comme le vôtre.
Vous êtes retraité des métiers du livre, de la culture ou pas du tout?
Du tout, du tout. Alors, d'un métier où il me fallait écrire, je suis sociologue du travail de formation et j'avais des fonctions de chargé d'études dans des organismes pour le ministère de l'Éducation et le ministère du Travail. Donc, il me fallait rédiger des rapports, des notes et des articles suite à des enquêtes. Et dans ce cadre-là, j'écrivais. C'était une activité que j'aimais bien, mais qui était contrainte, évidemment, dans le cadre professionnel. Et plutôt qu'à partir du moment où j'étais en retraite, continuer dans ce genre d'exercice, j'avais envie de me lancer dans la fiction, des petites fictions.
Très voilà. Bien. Est-ce que, en tant que sociologue, vous avez publié un livre ou un essai?
Oui, des rapports, c'était dans le champ de la sociologie oui. appliquée, donc c'était davantage des rapports. Il y a quelques articles qui ont été publiés.
Ah, des articles scientifiques, donc.
Donc, dans le cadre, c'était souvent préparatoire à des réformes de cursus de formation initiale ou continue. Il fallait faire des études de terrain sur l'évolution des métiers. Et puis, j'ai aussi travaillé dans le champ de l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'était des études de situation professionnelle, de poste, de collectif de travail, de politique managériale, etc.
D'accord.
Et pour chercher des pistes d'amélioration des conditions de travail. C'était toujours dans des buts, avec des objectifs concrets,
d'accord.
Disons.
Et donc,
et souvent en réponse à des questions que se posent les pouvoirs publics.
D'accord, très bien. Donc, une forme d'écriture contrainte, je reprends vos mots. Est-ce que cette contrainte, donc, qu'on peut peut-être retrouver dans le genre de la nouvelle, qui est quand même un genre très codifié, est-ce que c'est quelque chose qui est moteur pour vous, du moins qui est source d'inspiration?
Alors, oui, c'est intéressant que vous souligniez cet aspect qui me discipline un peu. parce que sinon, voilà, je ne suis pas sûr que je me lancerais. C'est-à-dire que le fait que ça soit un format court, il faut être concis, direct, et c'est un petit défi pour moi. Je ne me lancerai pas, en tout cas pas pour l'instant, dans l'écriture d'un roman, par exemple. Mm-hmm. Et puis, le choix de la forme, du format court, permet de se centrer sur un sujet et même, bien souvent, d'anticiper un peu la fin, la chute, mm-hmm. Au début de l'écriture du texte, quoi, du récit.
Mmh. Donc, par rapport à votre expérience pour ce concours de nouvelles organisé par la librairie, le sujet donc autour du vêtement, oui. Est-ce que ça a été pour vous donc une contrainte porteuse de sens? Est-ce que c'était peut-être un texte qui existait auparavant et le hasard a fait que vous pouviez soumettre en accord avec le règlement du concours?
Alors, c'est un peu les deux. Ça a été quand même déclencheur. Parce que depuis un moment, j'accumulais un peu des observations, on va dire, sur le circuit des vêtements en seconde main. Voilà. Et à vrai dire, vraiment, le facteur déclencheur, c'est mon épouse qui est très, voilà, qui fréquente assidûment les friperies. Mm-hmm. Qui elle-même fait de la couture. Donc c'est un sujet qu'on aborde souvent ensemble. Et je connais le principe d'échange aussi par correspondance Vinted. Et ce qui me fascine aussi, je lui demande souvent quand elle achète ou quand elle vend un vêtement par ce réseau, mais d'où ça vient? Alors des fois ça vient de justement d'Italie. Là, aujourd'hui, elle me disait qu'elle attendait une commande du Portugal, enfin, voilà. Et puis sinon, de bien des régions de France. Et ça m'amuse, enfin, ça m'intéresse d'imaginer le circuit de ces vêtements par ce biais-là, et puis d'imaginer, puisqu'on n'aura pas plus de nouvelles, d'informations concernant ces circuits, imaginez des histoires de personnes qui pourraient y avoir derrière. Donc la commande est tombée pile poil sur un sujet sur lequel je voulais travailler.
D'accord, c'est incroyable. Donc votre nouvelle Black Friday se passe en partie en Italie. Donc, oui. Est-ce que là aussi, c'est votre épouse qui a été source d'inspiration?
C'est parce que des vêtements, il arrive assez fréquemment, je ne sais pas si... les Italiens et les Italiennes sont plutôt friands de ce système de circulation de vêtements, mais c'est fréquent qu'il arrive des vêtements d'Italie. Voilà, en plus, il y a une époque assez récente où nous étions dans le nord de l'Italie et on est passé à Piacenza. Voilà, tout ça, c'est des petits morceaux de puzzle qui se collent les uns aux autres. Quand je prépare une nouvelle, ça met très longtemps à mûrir dans ma tête, où je mélange des ingrédients comme une recette de cuisine, et puis ça prend forme à la fin. La phase même de rédaction peut être assez rapide.
D'accord.
Mais ça mûrit longtemps à l'avance.
Et vous participez souvent à des concours comme ça?
Alors, depuis, oui, j'ai participé, je sais pas, une douzaine de concours, et voilà, mes textes ont été parfois retenus. Je crois que j'en suis à 4 ou 5 fois où j'ai été retenu.
Mais bravo. Donc, une dernière question pour vous, Monsieur Liaroutsos. Est-ce que vous avez envie de dédicacer cette nouvelle, donc Black Friday, ce prix, à quelqu'un ou à votre entourage, peut-être?
Tout naturellement, ce sera à mon épouse, qui se prénomme Maria, parce que vraiment, ça a été ma source d'inspiration pour cette nouvelle-là. Pour d'autres aussi d'ailleurs, mais encore une fois, ça me permet d'observer un petit peu, de réfléchir à ce qui la passionne, les vêtements et cette recherche, Et voilà, plutôt que de rester distant par rapport à ça, ça a été une petite complicité supplémentaire.
C'est une très très belle dédicace. Merci encore. Donc, pour nos auditeurs qui nous écoutent en deuxième partie d'émission, nous allons entendre la nouvelle Black Friday lue par Martine Boyer-Weinmann, donc qui a été une merveilleuse marraine pour ce concours autour du vêtement et de la nouvelle littéraire. Merci beaucoup, Monsieur Liaroutsos.
Je vous en prie.
Peut-être à bientôt.
Oui, 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 je passerai volontiers à la librairie.
Au plaisir, merci à vous.
Au revoir.
Black Friday. Notre rencontre remonte à 3 ans, dans une rue commerçante, à 2 pas de la Piazza dei Cavalli, au cœur de Piacenza. À la fin d'une journée fraîche, mais assez ensoleillée pour ouvrir le bal du printemps. Monica s'était échappée du bureau, plutôt que d'habitude. Elle marchait vite, pressée par l'heure de fermeture des boutiques, sur le point de sonner comme un tocsin. Débouchant de la Via Carducci, elle jeta sur moi, telle une surprise aux 1000 promesses, un regard d'experte capable de porter en une fraction de seconde un jugement définitif sur l'objet de sa convoitise. Ce n'est pas pour dire, mais je crois qu'elle fut aussitôt conquise. Une fois dans son appartement du centre-ville, meublé mi-brocante, mi-Ikea, avec l'ambivalence que Monica, avocate trentenaire, aimait revendiquer, elle plaça avec soin un vinyle sur une de ses nouvelles platines design rouge carmin. Ti amo, de l'inévitable Umberto Tozzi, démarra sa plainte. Nel letto comando io, ma de tremo davanti al tuo senno. Me voilà flottant dans le creux de sa nuque, effleurant sa poitrine, accueillant ses cheveux libérés d'un chignon trop professionnel, quand Monica murmura « Mon Giorgio ». À peine prononcé mon prénom, elle ajoutait « C'est une folie ». Sans que je sache si je devais en être fière ou vexée. Une allusion sans doute à mon prix, que je tairai ici, mais dont on se doute qu'il ne cherche pas à rivaliser avec les tarifs de la billerie. Juste le prix de la perfection d'un chemisier Armani. Monica surnageait alors dans le marasme de l'affaire Perlucci. Une mère célibataire dont elle assurait la défense contre toutes les composantes de l'ordre moral que l'Italie peut mobiliser en cas de grande foire médiatique. Le géniteur avait disparu le jour de la naissance du bébé, dont les multiples handicaps l'avaient dissuadé d'assumer sa paternité. Aurora Perlucci avait perdu les pédales, puis très vite son travail, dans une fabrique de chaussures partie pour ses contrées où la main-d'œuvre a la pudeur de ne rien réclamer. Un jour de canicule, elle avait laissé périr le bébé dans l'auto stationné sur le parking d'un supermarché. D'aucuns, très nombreux dans ces cas-là, prétendaient qu'elle avait cherché à se débarrasser de ce petit être programmé pour un avenir peu prometteur. Monica s'était jetée dans cette cause avec toute la volonté qu'elle pouvait aussi mobiliser dans un achat impulsif. J'étais de tous les rendez-vous importants. Elle s'affichait avec moi et jouait de ma prestance pour imposer son allure et ses arguments aux femmes comme aux hommes qui brandissaient leur catéchisme désuet. Seuls les jours où elle revêtait son habit noir me mettaient à la peine, la couleur définitive de la justice, nimbée d'une légère odeur de poussière, l'emportait sur mon éclat. Monica triompha un vendredi d'automne avec la relaxe d'Aurora Perlucci, prémisse d'une carrière brillante pour l'une et d'une solitude sans fin pour l'autre. Loyale, Monica m'associait à cette victoire, mais aussi aux arcanes d'un dossier qui l'avait tourmenté pendant de longs mois. Durant cette affaire, elle s'était entichée d'un de ses clients, genre colosse. Ils s'en donnaient du plaisir, ces deux-là. Dans le salon, dans la chambre, bien sûr, et même parfois dans le dressing. Bien que prenant ses aises avec la déontologie de sa corporation, Monica y mettait la fougue de ses jours de plaidoirie. Un soir tard, l'un et l'autre m'ont jeté à n'en rien de temps sur le sol de la salle de bain. Je restais là, plaqué au froid du carrelage, pendant qu'eux parvenaient sans mal à s'échauffer. Allegretto d'emblée, moderato cantabile, et enfin, pianissimo délicieux. Mais l'amour donne faim. Monica partit couper du jambon et déboucher une bouteille de Barolo. Son ogre en profita pour passer un coup de fil. Tapis dans mon coin, je me faisais oublier quand il évoqua le scandale Tartala, la pâte à pizza, toute prête à dérouler. Une soixantaine de décès par empoisonnement suite à une négligence de fabrication. La cartographie de la mortalité couvrait toute l'Europe avec un pic en France, tandis que l'Italie était relativement épargnée. « Écoute, j'ai sous la main une petite avocate fortiche qui va nous sortir de là. Je lui ai fait avaler que la levure était avariée et qu'il nous fallait nous retourner contre notre fournisseur. Je compte sur toi pour dégainer des échantillons qui nous serviront une preuve béton sur un plateau. » Là, tout nu devant la baignoire, en pleine redescente après la fiesta, vaguement inquiété par un petit rhume de sa firme agroalimentaire, se tenait devant moi Monsieur Tartala en personne. Après cet épisode, je fus reléguée dans la penderie de Monica. C'était triste à mourir. Jusqu'à un dimanche de décembre où Monica se donna corps et âme au rangement de ses placards. 5 jours après, je faisais une nouvelle rencontre. Judith, prof de biologie, militante écolo dans le nord de la France. Un peu plus âgée que ma première maîtresse, une petite cinquantaine qui approchait sans crier gare, mais tout aussi croquignolette et décidée. Brune également, des yeux presque noirs, qui annonçaient une détermination à toute épreuve. J'avais été expédiée par l'entremise de Wanted, pourvoyeur de fringues d'occasion, valorisé aujourd'hui en bourse à plus d'un milliard d'euros. Rien de déshonorant pour moi, d'autant que Monica m'avait doctement plié dans ma boîte Armani. La prof m'avait échangé contre une part conséquente de ses appointements de fonctionnaire. Je compris alors que ce petit sacrifice allait encore servir pour une démonstration de force. Judith s'habillait de simplicité et de matières éthiques, conduite édictée par ses convictions. Elle avait cédé cette fois aux lumières du luxe et était gagnée par une euphorie inconnue jusque-là. Avant le retour de son conjoint, elle se livra à une petite mise en scène qui exigeait de passer un tube italien retrouvé sur Internet. Consciente de sacrifier au cliché, elle se dandina au son de Ti amo en m'enfilant devant le miroir du corridor, voyeur froid mais objectif. Ti amo, ti amo, ti amo, vesti la rabbia di pace, sottane sulla luce. Cela devenait une habitude. Je devais me prêter à ce ballet romantique plutôt mièvre, mais le résultat fut foudroyant. Judith se sentit pousser des ailes. elle allait assurer à Paris demain, devant la commission parlementaire qui l'auditionnait dans le cadre de l'affaire Tartala, en tant que représentante d'une ONG engagée contre l'industrie de la bouffe sans scrupules. Ce fut une catastrophe. Judith avait bien démontré que le site français des usines Tartala ne respectait pas les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité, que le directeur de production s'arrangeait pour échapper au contrôle depuis 12 ans, et que la main-d'œuvre était aussi éphémère qu'un papillon de nuit. Mais un jeune député du Parti libéral-démocrate, surtout libéré d'une cravate indigne d'un progressiste autoproclamé, avait taclé Judith durant toute la séance. Qu'il fût connu comme rejeton des lobbyings de l'agroalimentaire, importait peu. Il pourfendait la bien-pensance écologique, l'utopie d'un artisanat à la papa, incapable de nourrir la planète, ainsi que les ONG empêcheuses de capitaliser en boucle. Il défendait la thèse de la levure avariée, totalement mensongère, mais que personne n'avait réussi à démasquer. Bon orateur, il raillait la technicité de l'exposé de Judith, emportait l'assentiment des membres de la commission à force de sourire doucereux pendant que Judith perdait de sa superbe. L'effet grand couturier avait fait un flop. Je devenais un chemisier terne et bafoué. De retour chez elle, Judith envoya balader ses chaussures et, comme dans les films, se servit une belle rasade de whisky avant de s'affaler sur le canapé. À son deuxième verre, je gisais en boule sur son lit, troqué contre un infâme boléro en coton organique made in Ardèche. Au fur et à mesure que montait l'ivresse, Judith était rongée par la mélancolie. À quoi bon tout ça? Est-ce que ça valait encore le coup de se bagarrer? Elle se sentait emportée par un vide qu'il aurait été malhonnête d'imputer aux seules gorgées de single malt. Elle rabroua son compagnon qui l'interrogeait prudemment et poussa un hurlement quand il lui mit Tiamo en guise de consolation. Une semaine après, j'étais enfournée dans une grande enveloppe en papier recyclé et par les bons offices de Wanted, je débarquais dans une cité populaire du département voisin. « C'est pour mamie !» expliqua Martine à son mari. « Un Giorgio Armani, 20 balles, tu te rends compte? Une affaire, Black Friday pour nous aussi !» Le lendemain, deux hommes en costume noir enfilaient mes manches sur des bras raidis. Ils me reboutonnèrent consciencieusement. C'était froid. Puis, on me fit entrer dans une longue boîte en bois avec mamie, l'une des dernières victimes de Tartala, la pâte à pizza, toute prête à dérouler. Nous venions à peine de nous rencontrer, mais j'avais le sentiment que cette nouvelle relation était faite pour durer.
Ti amo, ti amo, ti amo. Dammi il tuo vino leggero. danni sono di un bambino che da solo cavalli e si gira.
L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain du...